enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc soyez les bienvenus à la cinquième porte, à notre premier enseignement de cinquième porte. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 14. Nous allons commencer même au chapitre 13, verset 17. Il a dit, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shéchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chols, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée des Chols, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent le pays, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous abordons aujourd'hui la cinquième porte qui dit ceci, donc dans Deutéronome chapitre 28, notre passage de base qui dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alléluia. Je vais encore vous demander d'aller dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, au verset 23. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 16, le verset 23. Je lirai juste le verset et je vais rappeler le contexte parce que je pense que nous devons tous connaître ce contexte. C'est lui qui a été, c'est un passage de base lorsque nous introduisons l'enseignement sur les 12 portes. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Commençons verset 22 au moins. Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Nous allons encore aller dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 8. Jean le chapitre 8, je fais encore une lecture qui sera un peu longue, à partir du verset 30, suivant attentivement les lectures. Il a dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, ce que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Nous sautons et nous allons à la fin du chapitre 8. Il a dit, verset 56, Jésus dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, subitement, vous posez la question, quel est le lien véritable entre tous ces différents passages que nous venons de lire? Surtout avec le lien de la porte de tes ennemis. Amen. Voilà encore une porte que nous nous apprêtons à ouvrir. Une des portes de bénédiction qui est très, très, très importante. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 22, David pouvait se réjouir, célébrer l'Éternel de ce que, dans 2 Samuel 22, David se réjouissait de ce que l'Éternel lui avait donné la victoire sur ses ennemis. Il faut que nous parlions de la victoire sur les ennemis. Ça fait partie des bénédictions et c'est très important. Mais pour aller plus en profondeur de la victoire sur les ennemis, il faut d'abord définir qui sont exactement les ennemis. Alléluia. La Bible dit que lorsque cette porte de faveur s'ouvre dans votre vie, lorsque Dieu prononce la bénédiction qu'est la porte de Zabulon sur votre vie, la Bible dit les ennemis viendront contre vous par un chemin et ils s'enfuiront par sept chemins. Amen. Les ennemis vont venir. La bénédiction ne dit pas que tu n'auras pas d'ennemis. La bénédiction n'est pas en train de dire tu n'auras pas d'ennemis. Il ne dit pas je te bénirai, tu n'auras plus d'ennemis. Il ne dit pas je te bénirai, plus personne ne s'opposera à toi. Il n'a jamais dit cela. Il dit je te bénirai, les ennemis viendront contre toi. C'est une bénédiction. Amen. Les ennemis qui viennent contre toi là, c'est une bénédiction. Il ne faut pas voir la partie, il faut pas lire dans le contexte du verset, voir la partie, ils s'enfuiront par sept chemins. La bénédiction commence par ils viendront contre toi. Amen. Donc, tu es béni d'avoir des ennemis. Amen. Mais tes ennemis n'auront pas la victoire. Mais vous êtes déjà découragé. Vous dites, ah, donc on ne sait pas que c'est une bénédiction d'avoir des ennemis. Oui, mais quand on prend, la Bible dit de ne rien retrancher aux Écritures, de ne rien y ajouter. Le verset est clair. La Bible dit, je te donnerai la victoire, n'est-ce pas? Je te donnerai la victoire. Et dis sur tes ennemis, ils viendront contre toi. Ça fait partie de la bénédiction. Amen. Un enfant de Dieu qui est béni doit voir des ennemis venir contre sa vie. Jésus pouvait dire, il dit, malheur à vous lorsque tout le monde parlera bien de vous. Il faut vous poser des questions. Amen. La Bible dit que personne ne peut vivre pieusement sans persécution. Donc si tu vis dans la piété, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu vis avec l'Éternel ton Dieu, tu auras des ennemis. C'est un signe que sûrement tu as pris le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Comme on le dit, on aime bien le dire, si tu empruntes un chemin et que tu ne rencontres pas le diable face à face, sûrement il faut faire demi-tour. Ça veut dire que le diable et toi, vous partez dans le même sens. N'est-ce pas? Si Satan est devant toi, que toi te dirais, vous marchez comme ça, comment est-ce que vous pouvez vous rencontrer? Voilà. Mais si tu prends le chemin opposé à Satan, quand Satan vient, toi tu viens, vous allez vous rencontrer. Donc si tu rencontres le diable, c'est que sûrement tu es sur la bonne route. Mais si tu marches depuis des années et que tu n'as pas rencontré Satan, ça veut dire que vous devez partir dans la même direction. Là, il faut dire, depuis là, je marche, je ne vois pas le diable en chemin. Donc, tu dois freiner, tu dis, attention, une route qui est si plane, si tranquille, si aisée, il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Ce n'est pas tout le temps que les ennemis viennent, mais les ennemis s'élèveront contre toute personne qui marche dans la piété, contre toute personne qui craint Dieu, qui vit dans la crainte de Dieu, qui s'attache à l'Éternel et qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est une bénédiction d'avoir des ennemis. Amen. Mais la bénédiction ne s'arrête pas à avoir les ennemis. C'est aussi, vous devez les voir venir contre vous et puis s'enfuir par sept chemins. Amen. Si les ennemis aussi demeurent depuis des années, tes ennemis n'ont pas fui, sûrement aussi que cette porte-là n'est pas ouverte. La porte qui te donne la victoire sur tes ennemis. Le but de mon message n'est pas d'intervenir sur, je ne vais pas beaucoup insister aujourd'hui sur le rôle que joue l'ennemi dans la vie du chrétien. Je dirais seulement deux petits points tout de suite. Mais l'ennemi joue un rôle important. Le diable permet à Dieu de vous mettre sur votre chemin. Le diable, c'est le diable, hein, c'est l'adversaire. Mais en réalité, il travaille avec Dieu. Amen. Vous allez voir dans la vie chrétienne, dans la marche avec le Seigneur, que le diable participe à votre bénédiction. Il participe pour vous faire prier. Imaginez que Satan n'était pas là. Beaucoup n'allaient même pas prier. Donc le diable vient nous apprendre à prier. Lorsque ta vie est très tranquille, quand tout va bien, tu vois, non, tu commences à ne plus trop prier, tu te lèves le matin, il n'y a plus d'adversaire. Mais quand les sorciers, dès que le Seigneur voit cela, on touche un peu les sorciers, on dit allez, 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 allez. Donc quand tu attends, tu te lèves, tu as mal au ventre, tu arrives, on dit voilà, c'est un sorcier qui t'attaque, les gens sont contre ta boîte. Du coup, tu commences à aller au veillé des prières, tu commences à te lever à 4h du matin et à sincèrement prier. Alléluia. Donc quelquefois, les ennemis, le diable, les démons, participent à l'œuvre de Dieu en nous amenant à plus prier. Regardez les gens, combien de fois ils prient lorsqu'on dit que les sorciers veulent les tuer. Ça fait prier des gens, ça fait que les gens se convertissent. S'il n'y avait pas les sorciers, beaucoup de gens n'auraient pas donné leur vie à Jésus. La vie aurait été trop facile pour eux. Amen. Tu es là, tu n'as pas de position, tout est tranquille. Il dit, mais est-ce que j'ai besoin de Dieu? Donc quelquefois, vous savez, c'est pourquoi il fallait le diable. Amen. On est contre lui, mais il nous aide. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que le Seigneur te dit en ouvrant cette porte-là, c'est que l'ennemi ne pourra pas te vaincre. Il va venir contre toi, mais il s'enfuira par sept chemins. Alors, qui est exactement l'ennemi? C'est qui l'ennemi? Il faudra faire une différence dans cette série d'enseignements que nous allons commencer. Je ferai une différence entre le mot ennemi et puis le mot adversaire. Alléluia. En réalité, un adversaire est aussi un ennemi. Je fais une différence entre celui que j'appelle l'adversaire et celui que j'appelle l'ennemi. Dans le second passage qu'on a lu en Nombre chapitre 13 et chapitre 14, vous avez la présence là des adversaires et des ennemis. Amen. Israël s'apprête à prendre la terre promise. Sur le terrain, il y a des gens qui vont s'opposer à eux, des géants. Ce sont des ennemis, mais eux, je les appelle plus des adversaires. C'est quoi un adversaire? Un adversaire, c'est quelqu'un qui vous est hostile et que vous reconnaissez comme tel. Ça veut dire que tu sais que tu te bats contre lui. Un ennemi, tu peux ne pas le connaître. Il peut être avec toi, il peut être dans ton camp. Amen. Un adversaire, vous savez, quand on va, on dit voici nos adversaires. Ça veut dire on se bat, il y a une lutte frontale. Tu sais qui il est, tu sais qu'il est en train de faire des stratégies pour t'attaquer. Le diable est un adversaire. Parce qu'on sait qu'on se bat contre lui. Et on sait qu'il a des stratégies. Les ennemis sont quelquefois les personnes qu'on ne soupçonne pas d'être des adversaires, d'être des personnes hostiles. Vous me suivez? Alléluia. C'est quoi un ennemi? Dans son sens même étymologique, par rapport à l'hébreu, même au grec, parle de quelqu'un qui est hostile à votre destinée. Alléluia. Donc l'ennemi se définit comme toute personne ou bien toute chose qui s'oppose à ce que vous puissiez entrer dans l'accomplissement de votre destinée. C'est ce qu'on appelle un ennemi. Amen. Dans les ennemis, il y a les adversaires et les ennemis même. Donc il y a ennemi grand E qui définit tout ce qui s'oppose à votre entrée, à ce que vous puissiez saisir vos promesses. C'est ce qu'on appelle les ennemis. Alléluia. Et dans ces ennemis-là, il y a les adversaires. Les adversaires pour les Hébreux dont on vient de lire le passage ici, pour les Israélites, leur adversaire, c'était les géants. Ils savaient que pour prendre la terre promise, ils auraient eu une hostilité, ils auraient eu une adversité en la personne des géants qui possédaient déjà la terre. Alléluia. Mais les ennemis se sont levés dans leur propre camp. Parmi les 12 espions qu'on avait envoyés, 10 étaient des ennemis. Ils ont semé des paroles de doute, des paroles de trouble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël n'a pas pu prendre la promesse. Israël n'est pas entré dans sa promesse. Ils n'étaient pas des adversaires parce qu'ils ne se battaient pas de front contre les Israéliens. Amen. Ils étaient dans leur propre camp et ils ont commencé à leur donner des paroles. Alléluia. Des paroles de découragement. Au lieu de donner des paroles d'encouragement, au lieu de donner des paroles qui vont leur permettre de saisir la promesse de Dieu, ces gens-là ont commencé à parler. Et les paroles qu'ils ont dites ont créé dans ces hommes-là une dépression. Alléluia. Vous savez, quelquefois, on parlera des ennemis, vous pouvez avoir des ennemis. Vos ennemis peuvent être, entre guillemets, vos amis. Tu vois, pendant que tu es en train de développer ta foi pour obtenir quelque chose, la personne vient vers toi, mais qu'elle te parle. Oh, tu sais, je connais une sœur, elle priait aussi comme toi, mais ça n'a pas marché. Tu vois, puis la personne te parle comme ça. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Amen. C'est pas un adversaire, mais c'est un ennemi. Parce que la façon dont elle te parle ne te permet pas d'aller saisir la promesse de Dieu pour toi. Donc c'est tout cela, Dieu dit, ils vont venir contre toi par un chemin et ils vont s'enfuir par sept chemins. Il y en a, lorsqu'ils voient le verset, ils pensent que Dieu est en train de seulement parler des adversaires. Les adversaires sont les moins dangereux. Parce que l'adversaire, tu sais que c'est ton ennemi. Mais l'ennemi, là, l'ennemi petit E, tu ne le connais pas. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Si tu suivais comme ça. Donc, c'est détecter ces ennemis-là qui est important. Parce que l'adversaire, Satan, on sait que tout le monde sait que Satan, c'est notre adversaire. Si on dit qu'il y a un démon, nous, on sait que c'est notre adversaire. Alléluia. L'attitude de l'ennemi, notez ceci, n'est pas toujours continuelle. Quelqu'un peut avoir votre ennemi de manière ponctuelle. Ou bien vous-même, vous pouvez être l'ennemi de quelqu'un aussi. Parce que quand on dit les ennemis seront contre toi, toi-même, tu peux être un ennemi. Donc tu vas venir contre la vie d'un frère par un seul chemin et Dieu va te mettre en déroute. Hein? Donc l'apôtre Pierre s'est comporté dans le passage qu'on a lu en Matthieu 16, 23 comme un ennemi. N'est-ce pas ce qu'on a lu? Pierre croit en Jésus. Jésus dit, je vais aller être crucifié. Pierre vient, il dit, ne dis pas de telles choses. Ça ne t'arrivera pas. Jésus se retourne et il voit en Pierre l'ennemi. Il dit quoi? Arrière de moi, Satan. Alléluia. Parce que Pierre est en train d'être saisi par le diable pour s'opposer à l'accomplissement du plan de Dieu. Mais ce que Pierre a dit, est-ce que c'est mauvais? Humainement parlant, ce n'est pas mauvais. Pierre est en train de lui dire, Jésus dit que je vais aller mourir à la croix. Pierre, en tant qu'un aîné, parce que Pierre était sûrement plus âgé que Jésus, alléluia, vient lui donner des conseils. Il dit, c'est vrai, tu es le maître, hein? Mais ne dis pas des choses pareilles. Pourquoi tu vas aller mourir à la croix? Vous voyez? Et là, Jésus se retourne. Arrière de moi, Satan. Enseignement, comment discerner des ennemis comme Pierre? Vous comprenez? C'est facile de connaître un adversaire. Mais un ennemi, ça peut être très complexe. Vous pouvez être en train d'entreprendre, être sur un chemin où Dieu va vous bénir. Et vous prenez avec vous un mauvais conseiller qui ne va pas forcément vous dire quelque chose qui est dangereux. Manifestement. Mais juste une petite parole. Mais vous savez, ils ont fini de parler, mais tu es abattu, découragé. Tu n'as même plus la force, n'est-ce pas, de continuer la bataille, de continuer le combat. Tu vois, ce frère ou bien cette soeur s'est comporté ponctuellement comme un ennemi. Alléluia. Le cas de l'apôtre Pierre ici, ce n'était pas un ennemi volontaire. Amen. Il est devenu ennemi de manière involontaire. C'est pourquoi je dis, toi-même, tu peux devenir ennemi de quelqu'un. Donc, si tu es un ennemi, tu vas t'élever contre un frère par un seul chemin et Dieu va te disperser par ce chemin. Je ne sais pas comment. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va, on comprend mieux au niveau des définitions. Hein? Les adversaires, les ennemis. Les adversaires, les ennemis. Alors, mon exhortation d'aujourd'hui va consister tout simplement à ce que vous-même, vous ne soyez pas ennemis. Et surtout que vous, les adversaires, on les connaît. Mais il y a des gens aussi qui sont des adversaires. Il y a des hommes qui sont devenus tellement mauvais qui sont manifestement des adversaires. Mais là, vous les connaissez plus facilement. Ceux qui créent le plus de dommages aux chrétiens, aux enfants de Dieu, ce sont les ennemis, petit eux. Parce qu'ils sèment en vous le doute. Ils sèment en vous la peur. Ils sèment la crainte. Ils sèment en vous le manque de confiance en Dieu. Ils vous amènent à vous poser 10 000 questions par rapport à votre plan, par rapport à ce que Dieu va faire. Ils vous orientent mal. Alléluia. C'est eux qui sont les plus dangereux. Surtout quand vous pensez qu'ils vous donnent des conseils sûrement inspirés par le Seigneur. Alléluia. Donc notre premier grand adversaire, c'est le diable. Dans le passage de Jean, chapitre 8, que j'ai lu aussi, peut-être que je veux le commenter. Jean, chapitre 8, à partir du verset 30, on voit Jésus aussi appeler, c'est un juif. Il dit, vous avez pour père le diable. Parce que ces personnes-là, était en train de faire la volonté de leur père. Au verset 30 de Jean chapitre 8 qu'on a lu, la Bible dit, comme Jésus était en train de parler ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont commencé à dire, il dit, mais nous on n'est pas esclaves, nous ne sommes esclaves de personne. Il dit, mais comment? Je lui dis, oui, il dit, nous sommes libres, nous sommes déjà affranchis. Je lui dis que celui qui pêche, bon, en fait le péché triomphe de celui qui pêche et que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il leur a parlé ainsi, il leur a parlé ainsi. Dans les versets précédemment, Jésus leur a dit, je sais que vous avez physiquement votre père Abraham, mais de manière spirituelle, vous avez pour père le diable. Parce que vous faites la volonté de votre père. Votre père, c'est le diable. Donc lorsque quelqu'un se met à faire la volonté du diable, il devient fils du diable et il s'oppose à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le verset 30 dit que ces gens l'ont cru en Jésus. Mais au verset 59, la Bible dit qu'ils ont pris des pierres et se sont mis à lapider Jésus. Amen. Donc des personnes même qui peuvent croire en Jésus, si elles ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu, si tu ne laisses pas ta vie être dirigée par le Saint-Esprit, toi-même, tu peux devenir un ennemi dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les sentiments qui amènent une personne à devenir ennemi ne sont pas du tout complexes à trouver. La Bible les définit clairement. Le premier ennemi qui a été manifesté comme ça, c'est Caïn. Alléluia. Caïn est le premier ennemi. La Bible dit que Caïn aussi était un fils du malin. Caïn, parce qu'il était fils du malin, pas parce que Satan, comme certains le croient, est parti avoir des rapports avec Ève pour l'enfanter. Non, mais il était fils du malin parce qu'il a accepté la volonté du diable et il a commencé à faire la volonté de Satan. La première partie donc de mon exhortation, en ce qui concerne les ennemis, les adversaires, c'est vous-même. Faire en sorte que vous-même, vous ne soyez pas des ennemis pour votre propre vie et pour la vie des autres. Alléluia. Dans le livre donc de Genèse, au chapitre 4, il est question de Caïn et de Abel. Ici, Abel et Caïn ont fait des offrandes à Dieu. Caïn même est le premier à faire une offrande à Dieu. Ça veut dire que dans un premier temps, Caïn est un croyant. C'est quelqu'un qui croit dans le Seigneur. Il fait une offrande à Dieu. Mais la Bible dit qu'il a offert les fruits du sol. Et Abel, de son côté, est venu, il a offert les premiers-nés de ses troupeaux et les meilleurs morceaux. Il a offert les premiers-nés de ses troupeaux et leurs meilleurs morceaux. La Bible dit que Dieu n'a pas trouvé agréable l'offrande de Caïn. Caïn est tombé, Caïn est devenu jaloux. La jalousie l'a amené à tuer Abel. Le Seigneur pouvait lui dire, il dit, Caïn, le péché est tapé devant ta porte, toi domine-lui, domine sur lui. Ici, l'histoire de Caïn nous parle de la faiblesse de la chair. Dans le livre de Galates chapitre 5, ouvrons nos Bibles en Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je lis à partir du verset 16. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Le verset 20, il dit les œuvres de la chair, il cite l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. L'inimitié, c'est l'attitude qui rend ennemi. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'histoire de Caïn et Abel, qui est une grande leçon spirituelle pour nous, on voit deux adorateurs de Dieu. Un qui est apprécié et un autre qui n'est pas apprécié. Caïn n'est pas apprécié parce que je pense que dès le début même, il avait un problème à l'intérieur de lui-même. Amen. Il avait un problème à l'intérieur de lui-même, Caïn. Premièrement, il n'aimait pas profondément Dieu. Officiellement, dans la bouche, il va dire qu'il aime Dieu. Mais c'était pas un homme spirituel. C'est vrai qu'il est le premier à se lever et à faire l'offrande à Dieu. Mais il n'a pas sacrifié à Dieu ce qu'il avait de meilleur. La Bible dit que Caïn est venu, il a offert les fruits du sol. Et regardez ce qu'il a dit de l'offrande de Abel. Il a dit, Abel a offert les premiers de son troupeau leurs meilleurs morceaux. J'ai l'habitude quelquefois de poser cette question, mais le temps ne manquera, je ne la poserai pas aujourd'hui, je vais juste répondre. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn? Mais regardez bien le verset. Il a dit que Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn et Caïn lui-même. Amen. Bon, je pense que pour que vous soyez plus convaincus, il faut qu'on le lise. Hein? Lisons ça pour réfléchir à notre esprit. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1.
Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Je continue. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. »
Ok, gloire à Dieu. Voici donc l'attitude de Caïn. Au départ, on a deux adorateurs. La Bible ne dit pas que Caïn avait un problème initialement avec Dieu. Mais quand on a lu tout à l'heure le passage de Galates chapitre 5, à partir du verset 16, où le Seigneur va commencer à citer les œuvres de la chair, on retrouve dans l'attitude de Caïn beaucoup de pensées et d'attitudes charnelles qui ont amené Caïn à devenir un ennemi pour son frère. Amen. Au préalable, il n'est pas dit que Caïn et Abel se disputaient, qu'ils avaient un problème. Mais dans l'attitude de Caïn, on voit que Caïn avait certaines mauvaises, il avait laissé certaines dispositions du cœur, certaines dispositions de la chair dominer sur sa personne. Alléluia.
Paul, et pardon, Pierre a failli être un ennemi, a été un ennemi un tant soit peu pour Jésus, parce qu'il a laissé certains désirs, certains sentiments de la chair prendre le devant sur lui. Tu peux être, sans te rendre compte, un ennemi pour tes frères, mais aussi être un ennemi pour toi-même. Parce que Caïn, dans son attitude, a été un ennemi pour lui-même. Donc si toi-même, tu es un ennemi pour toi-même, tu vas venir contre toi. Par un chemin, Dieu même va te disperser, c'est-à-dire ta vie sera dispersée. Amen. Autrement dit, en fait, tant que quelqu'un marche selon les désirs de la chair, c'est pourquoi la Bible dit qu'il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est ce qu'on a lu en Galates chapitre 5, qu'il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et je vous avais dit ceci, que l'héritage du royaume de Dieu, n'est pas, Dieu n'est pas en train de dire qu'il ne va pas aller simplement au paradis. Mais il dit les promesses du royaume. Et les 12 bénédictions que nous avons citées parlent des promesses du royaume. On a parlé des 12 portes qui nous donnent accès aux choses du royaume. Si quelqu'un vit, laisse la chair le dominer, il ne peut pas prendre l'héritage. Ses ennemis, c'est-à-dire lui-même, va s'empêcher de prendre son héritage. Alléluia. Ton premier ennemi, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Amen. Ton premier ennemi, celui que Dieu cherche à disperser, c'est toi-même. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que l'ennemi qui est toi-même, tes mauvaises habitudes, tes mauvaises attitudes, soit dispersé par ce chemin, et que toi-même tu restes ferme, et que tu ne sois plus un ennemi pour ton frère, et que tu ne te laisses plus utiliser, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que, n'est-ce pas, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Alléluia. La Bible dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton ami, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. Alléluia. Si, ce que tu, la Bible dit aussi que ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Si tu es un ennemi pour des gens, tu auras encore plus d'ennemis. Pas parce que tu es forcément dans le plan de Dieu, mais parce que tu es en train de récolter ta propre méchanceté. Parce que tu es en train de récolter ta propre attitude négative. Amen. Alléluia. La Bible dit, c'est vrai, certes, que ceux qui marchent dans la volonté de Dieu seront persécutés. Amen. Mais la Bible dit aussi que ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Il arrive très souvent que nous récoltons dans notre vie les paroles et les actes que nous posons parce que nous agissons selon la chair. Et quand nous agissons selon la chair, les gens aussi nous rendent ça selon la chair. On a l'impression d'avoir devant nous des ennemis ou bien des adversaires. On va commencer à les lier et à les paralyser. Mais Dieu ne nous exauce pas. Mes frères, oui, Dieu ne nous exauce pas parce que la vraie personne qu'on est en train de lier, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes le vrai problème. Alléluia. Car les gens nous donnent ce que nous leur donnons. Donc il faut qu'on arrive vraiment à démanteler ce premier groupe d'ennemis là. Amen. Et il faut que tu décides de le faire maintenant. Alléluia. Avant de parler des ennemis qui viennent de l'extérieur. Gloire à Jésus. Donc ici, voici le premier ennemi de Caïn et d'Abel. D'Abel, c'était Caïn. Mais Caïn est d'abord son propre ennemi. Caïn est d'abord son propre ennemi. Tout commence ainsi. Simplement dans la vie d'adoration, Caïn fait une offrande à Dieu. Vous avez remarqué que la Bible dit que Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn et Caïn lui-même. Il n'a pas apprécié l'offrande de Caïn tout simplement parce que Caïn n'a pas d'abord pensé à Dieu dans son offrande. Comment je le dis ça? Parce que la Bible dit, Abel a apporté les premiers-nés de ses troupeaux et leurs meilleurs morceaux. Voici le qualificatif qui est donné à l'offrande de Abel. À l'offrande de Caïn, on ne dit pas les premiers fruits. Vous comprenez, non? On dit Caïn a apporté les fruits du sol. Abel, on dit Abel a apporté les premiers-nés de son troupeau et leurs meilleurs morceaux. Donc, on voit que dans l'attitude d'Abel, il y a d'abord cette attitude-là de penser d'abord à Dieu. C'est-à-dire, dès que ses brebis ont mis bas, son premier réflexe a été Dieu, pas lui-même. Si on ne dit pas de Caïn que c'était ses premiers fruits, ça veut dire que les premiers les a consommés lui-même, avec sa famille. Et peut-être les seconds, la seconde récolte ou la troisième récolte, n'est-ce pas? C'est là qu'il s'est levé et qu'il a voulu l'apporter à Dieu. On voit d'abord dans leur attitude, premièrement, que Abel aimait Dieu plus que Caïn. Même si Caïn est le premier à se lever à faire l'offrande, peut-être parce que bon, la terre produit beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Comment dirais-je, que le troupeau, avant que les premiers ne mettent bas. Donc, il a apporté les premiers, mais il n'a pas apporté ce qu'il avait de meilleur. Et Dieu n'a pas apprécié son offrande. Dieu a préféré l'offrande de Abel parce que c'était un sacrifice qui venait du fond du cœur. Il a dit Dieu d'abord, avant moi. Et puis après, il a pensé à lui. Dieu était content. Maintenant, la Bible dit que Dieu n'a pas apprécié Caïn aussi. Pourquoi Dieu n'a pas apprécié Caïn? Dieu n'était pas d'accord avec leur offrande, avec l'offrande de Caïn, je comprends. Mais Caïn a fait quoi? Et puis, on n'était pas d'accord avec lui. Bon, je veux dire, en fait, en réalité, Caïn n'aimait pas Abel. Caïn n'aimait pas Abel. Parce qu'en fait, toute l'attitude qu'il a manifestée après irritation, jalousie ou autre, ne sont que le fruit d'un manque d'amour. Je ne sais pas, tu pars avec ton frère passer un examen. Tu te retrouves avec ton frère, ça arrive, hein, vous êtes des mêmes frères, vous vous retrouvez ensemble au BPC. C'est ton petit frère. Mais vous passez le BPC, plus ça marche, toi, tu échoues. Mais est-ce que pour ça tu vas vouloir le tuer? Si tu t'élèves contre lui et tu as l'intention de le tuer, c'est que avant même l'examen, là, tu ne l'aimais pas. Parce que quand tu aimes une personne, tu es toujours contente pour elle. Tu es toujours contente de sa réussite. Alléluia. 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 C'est là que commence le premier problème de Caïn. Tu vois? La réalité, il faut te poser dans ton cœur. Juge-toi toi-même. Est-ce que tu es content de la réussite des autres? Est-ce que tu es où tu es? Avant de parler des ennemis qui viennent contre ta vie toi-même. Toi-même où tu es là. Rappelle-toi tes amis, les gens qui ont été proches. Quel est le sentiment intérieur que tu as eu lorsqu'ils ont eu quelque chose que toi tu n'as pas eu? Lorsque tu as vu leur mariage avant le tien? Lorsque tu as vu leur bonheur avant le tien? Quelles étaient les pensées de ton cœur? Tu ne peux pas ouvrir la porte de Zabulon. Amen. Si tu ne sais pas apprécier les autres, les aimer dans leur succès, les aimer dans leur réussite. Premier élément pour ouvrir cette porte, ne sois pas un ennemi pour eux. Parce que ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Amen. Au niveau de d'autres enseignements, d'autres portes, j'ai beaucoup parlé de cela, de l'attitude du cœur. Mais aimez les gens. C'est pourquoi je crois que le Seigneur commence la parole en disant, même aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il faut aimer les gens. Amen. Pour ouvrir la porte de Zabulon, il faut aimer tes ennemis. Amen. Ce n'est pas dit qu'ils ne vont pas partir. Ce n'est pas dit qu'ils ne vont pas partir. Mais il ne faut pas que vous ayez, il faut pas avoir un cœur aigri, méchant. Aujourd'hui, je pense que c'est une séduction qui est en train dans l'église, n'est-ce pas? Où des personnes dans l'intercession commencent à tuer des hommes. Je dis non, ce n'est pas de la parole de Dieu. Il faut faire attention à ce genre de choses-là. Ça traduit quelquefois le manque d'amour dans le cœur des chrétiens. Et c'est ce manque d'amour-là, cette amertume intérieure, c'est leur colère personnelle à que les gens traduisent en souhaitant la mort des autres. Il faut lutter, il faut se battre, chasser le diable. Jésus n'a pas dit à Pierre, arrière de moi, Pierre. Il a vu en Pierre, Satan. Il dit, arrière de moi, Satan. Ne vous trompez pas de cible. Alléluia. Alléluia. Ne vous trompez pas de cible. Amen. Il faut aimer ton prochain. Voilà ce que le conseil que Dieu a donné à Caïn. Il dit, le péché est tapi devant ta porte, mais toi domine sur lui. Ça veut dire quoi? Qu'il est très fort probable que naturellement, les sentiments de la chair aient envie de prendre le devant. Mais toi, il faut apprendre à dominer. N'accepte jamais d'agir par rapport à la volonté de la chair. Même si ce que tu veux faire te semble juste. Regardez ce que la Bible dit. Dans l'histoire de Caïn, on dit, Dieu a dit à Caïn, le péché est tapi devant ta porte. Il ne t'a pas encore pris, mais toi, domine sur lui. Caïn avait déjà un problème, le péché n'était pas loin. À un moment donné, le péché n'est pas loin de vous. Quand tu es déjà Chanel, le péché n'est pas loin. Mais il faut dominer, ne pêche pas, ne suis pas sa voix. Et le verset dit quoi? Cependant, Caïn adressa la parole. Ça veut dire, l'esprit dans lequel il est parti parler n'était plus pur. Et comme il a commencé à parler, c'est pas qu'est-ce qu'il a dit comme parole à Abel. Abel a dû répondre et puis en même temps il a tué. Parce que lorsqu'il arrivait à lui parler, je sais pas quel conseil vous lui donnez, mais je veux dire, tout ce qui vous amène à aller parler aux gens, si ce n'est pas inspiré de l'amour de Dieu, même ta félicitation, même tu viens dire, c'est bien, félicitations. Alléluia. Mais ça te fait mal. Vous savez, quelque chose peut nous faire mal dans le sens de nous challenger. C'est-à-dire, un frère a atteint quelque chose, je peux être, je ne suis pas contre lui. Mais dans mon cœur, ça me motive. Je dis au Seigneur, si tu l'as fait pour lui, tu peux le faire pour moi. Et tu vas le faire pour moi. Ça, ce n'est pas de la jalousie. Amen. C'est quelque chose qui s'appuie sur l'Éternel. Mais voir dans l'autre un ennemi, comme si en fait, c'est à cause de... Parce que lui, il est béni que toi, t'as, c'est comme si la main de Dieu était limitée. Et quand Dieu lui a donné, ça veut dire Dieu a pris pour toi pour lui donner. Donc ça te fait mal. Comme si Dieu a arraché la chose dans ta main pour lui donner. Et tu vois ce sentiment-là, tu vois? C'est un sentiment qui débute l'esprit de la sorcellerie. Bannissez ces choses-là de votre cœur. Ne les laissez pas en vous. Suivez le conseil que le Seigneur a donné à Caïn. domine sur le péché. Il est tapis devant ta porte. Il y en a qui sont là et vous savez que ces sentiments-là sont en vous. Ne cherchez pas un ennemi loin. Commencez par vaincre ça d'abord. Alléluia. Commencez par dominer. Apprenez à vous réjouir du succès des autres. Apprenez à vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Apprenez avec ceux qui pleurent de manière sincère. Parce qu'il y en a qui pleurent avec ceux qui pleurent de manière hypocrite. Le monsieur, il a échoué, il a un problème. Tu dis, hé frère, Yako, mais ton cœur dit, il n'a pas dit, il peut. Il n'a pas dit. Vous voyez? Voici toutes les choses qui bloquent les gens. Et les ennemis viennent contre eux. Les ennemis ne s'enfuient pas par cette chemin. Les ennemis les attaquent. Ils ne savent pas d'où viennent les ennemis là. Tout leur chemin est bloqué. Dès qu'ils entreprennent, les gens sont contre eux. Les choses. Mais ton premier ennemi, c'était toi. Amen. Par de petits sentiments dans ton cœur que tu as tolérés, sur lesquels tu n'as pas voulu dominer, et tu es parti parler comme Caïn. La Bible dit cependant, Caïn adressa la parole à Abel. Et comme il était dans les champs, il le tua. Amen. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? L'irritation, la colère. La colère est une œuvre de la chair. On l'a cité tout à l'heure dans Galates chapitre 5 là. La Bible dit, l'irritation fait partie des œuvres de la chair. La colère va vous faire agir toujours en ennemi. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Il va y avoir des situations où les gens vont vous mettre dans des situations pour vous irriter, pour vous mettre en colère. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez dire quelque chose qui sera une parole ennemie de Dieu et détruire la vie d'une autre personne. Amen. Très souvent, je parle avec les frères qui font le service. Vous savez, je voulais dire aux frères de l'église, vraiment respecter et puis honorer les frères qui font le service. Amen. Ce n'est pas facile parce que quelquefois, vous êtes, bon, pas tout le monde, hein, mais les gens sont très compliqués avec eux. Ce n'est pas du tout évident. Vous voyez, non? Ça, c'est une parenthèse qu'il faut que je lève. Amen. Par exemple, le culte à l'église, on commence à 7h30. Le travail, la personne est payée. Hein. Ils le font par amour pour Dieu. Ce n'est pas un salaire. Ça veut dire quoi? Que le dimanche, la veille, on doit déplacer la sono. Imaginez-vous tous les frères qui soulèvent les chaises. Bon, les frères, ils vont venir, ils vont les voir comme ça. Personne ne va leur donner un coup de main. Ce n'est pas une bonne attitude. Amen. Bon, c'est un service qu'on fait pour Dieu. Mais c'est que non seulement en plus de cela, même si les gens ne sont pas venus donner un coup de main, mais c'est que les gens souvent sont très agressifs. Il y en a même qui les insultent. Tu vois? Il y en a qui les insultent. Parce que simplement, ils doivent faire positionner l'ordre, faire asseoir les gens à une position. Et c'est quelque chose de, c'est pas du tout évident. La personne est venue servir le Seigneur. Et il fait ça pour toi, il fait ça pour Dieu. Alléluia. Donc si quelqu'un parmi nous se reconnaît dans une parole de colère, quand ils t'ont demandé, va t'asseoir quelque part, tu leur as mal parlé. Il faut te repentir. Parce que Dieu n'a pas apprécié. Amen. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Mais je veux expliquer simplement que, bon, c'est pas du tout évident. Vous voyez, c'est pas du tout évident. C'est quelquefois, surtout quand il y a du monde, le travail c'est stressant. Voilà. Pour l'instant, aussi l'appel, si vous sentez que vous êtes appelé à l'accueil, qui est un grand ministère, non, ne fiez pas, venez. Donc moi j'ai dit au groupe d'accueil, au protocole et aux huissiers, je leur ai dit, détectez les gens les plus compliqués là. Ceux qui sont compliqués là, je vais les faire l'accueil, je vais venir faire autre pastoral. Je dis toi, rentre dans l'accueil, toi aussi apprends. Donc dès qu'on va détecter les gens qui sont durs là, d'office, vous payez votre tenue, vous rentrez dedans. Si vous ne faites pas ça, c'est une désobéissance au pasteur. Vous rentrez là-dedans. Vous allez accueillir, quand vous allez finir d'accueillir deux ou trois fois pendant un mois, hein, vous allez respecter. Oh frère, nous vous comprenons. Alléluia, nous vous comprenons. Ok, gloire à Dieu. Mais je faisais cela en fait pour pourquoi je donnais un exemple? Parce que je leur disais ceci, c'est que je leur dis toujours, quelle que soit la pression que vous avez, gardez le sourire, soyez toujours bon avec les gens. Ne laissez pas la colère vous prendre. Mais je sais que ce n'est pas du tout évident, mais apprenez à le faire. Parce que l'ennemi peut venir par une personne te provoquer. Hein? Par exemple, tu arrives, on lui donne ton soeur, il dit, oh, toi, quitte devant moi, je vais m'asseoir ici là. Tu dis, non, s'il te plaît, ma soeur. Mais toi, oh, quitte là. Tu es tellement. Ça fait mal, hein. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Tu veux que j'en s'asseoir juste pour éviter après qu'on soit déplacé. Tu dis à la personne d'aller s'asseoir et puis il te parle mal. Donc, je dis au frère, je dis, quand tu es fâché comme ça, peut-être le prochain qui arrive, il est calme. Lui, il est bien. C'est un nouveau.
et tu déverses ta couleur sur lui. Donc quand il arrive, va te faire cela. Il a dit, mais je t'ai fait quoi? Oui. Et
en fait, je dis simplement parce que le diable est arrivé à te provoquer. Tu vois, l'irritation a fait que peut-être tu vas perdre une âme. Peut-être que quelqu'un est en train d'arriver, tu as parlé sous la colère, mais ça peut casser sa foi s'il est nouveau dans la foi. Bon, si c'est un ancien, il doit gérer ça. S'il retrograde pour ça, on dit mon frère, c'est grave. Voilà. Si pour ça, là, un ancien ne doit plus venir à l'église, on dit mon frère, donc toi aussi. C'est que vraiment, tu dois revoir ta marche avec Jésus. Mais on suppose que peut-être pour un nouveau, pour quelqu'un qui arrive une première fois, tu vois. C'est pourquoi la Bible dit la colère de l'homme n'est jamais la volonté de Dieu. Bon, je le dis ça pour le cadre seulement de l'accueil, j'ai voulu prendre cet exemple. Mais dans votre vie de tous les jours, vous devez vraiment prier l'Éternel pour qu'il vous garde loin de la colère. Amen. Par la colère, vous pouvez détruire beaucoup de gens. Vous pouvez détruire beaucoup de choses. Vous pouvez être ennemi de la chrétienté. Vous pouvez être ennemi de Dieu. Alléluia. Certains se laissent tellement porter la colère pour quelquefois avec leur servante à la maison. Vous allez dire des paroles. Mais la personne même qui entend ce que tu es en train de dire là, va plus jamais vouloir se convertir. On dit, mais toi, tu es chrétien, puis tu parles comme ça. Tu es chrétien, puis tu parles mal. Parce qu'il y a des gens avec la colère de la chair. Là, quand tu sais même pas ce que tu dis. Tu dis des choses et tu es capable de poser des actes. 3 heures après, tu regrettes. Tu dis, mais comment je peux parler comme ça? Oui. La Bible dit, le péché est tapis devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Si tu le laisses te dominer, tu vas devenir ennemi. Amen. Je sais qu'au départ, ce n'est pas évident. Mais il faut savoir que votre premier ennemi à chasser, c'est d'abord ces gens de faiblesse-là. Parce que non seulement vous êtes ennemi de vous-même par rapport à votre héritage, mais vous êtes ennemi aussi des autres par rapport à leur héritage spirituel. Avec l'Esprit de Dieu, on peut traiter avec tout. Seulement, je l'ai déjà enseigné, ne justifiez pas vos faiblesses. Si vous êtes humble, vous reconnaissez chaque fois que Seigneur, même si vos colères sont justifiées, dis Seigneur, je suis trop irritable. Le problème n'est pas de savoir si vos colères sont justifiées ou non. Le problème, Dieu dit, la colère fait partie des œuvres de la chair. La colère fait partie des œuvres de la chair. C'est tout. Donc, dès que ça se manifeste constamment dans votre vie, vous savez que pour un peu, vous êtes irritable, vous êtes fâché. Traitez avec le Seigneur. C'est rien qu'une pensée de la chair. Vous pouvez la dominer. Amen. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est possible. C'est possible. Jésus n'a pas renié Pierre parce qu'à un moment donné, il s'est laissé conduire par la chair. Jésus ne va pas te renier pour ça. Tu vois? Mais toi-même, tu dois prendre cette décision de grandir dans ta foi, de grandir dans ta vie, en dominant ces genres de choses-là qui sont derrière toi. La Bible dit encore que, Dieu a dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? L'angoisse, la tristesse. Donc, en plus de la colère, vous avez l'abattement. Amen. Son visage était abattu. Abattu, c'est vrai, il va dire parce que Dieu n'a pas apprécié son offrande. Mais quand vous laissez l'angoisse, l'abattement vous gagner, plus d'une journée, vous allez agir en ennemi de la croix. Vous devez apprendre à. Dieu dit à Caïn, relève-toi, relève ton visage. Amen. La Bible dit, la tristesse selon Dieu produit la repentance. Il va présenter à la joie. Mais une tristesse, vous demandez pardon à Dieu, vous êtes abattu, vous sentez que ton âme a abattu. Ça va te produire de l'irritation, tu as mal parlé aux gens. Tu vois? Ou bien ça va t'empêcher carrément de faire la volonté de Dieu. Il y a des genres de choses qui sont les désirs de la chair. Il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'a pas dit que la chair n'est pas là. La chair est là. Marchez suivant l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, on les ressent. Vous arrivez à un moment donné, vous êtes là, vous sentez que votre âme doit faire le choix. Tu sais quelle est la volonté de Dieu, puis tu sens que ta chair a envie de régler une situation dans la chair. Mais toi-même, tu t'arrêtes au milieu et puis tu dois faire le choix. Tu vois? Ce n'est pas parce que ta chair a ressenti quelque chose que tu as péché. C'est ce qu'il a dit à Caïn. Il dit, le péché est tapis devant toi. Caïn était déjà abattu. Caïn était déjà irrité. C'est s'il laissait ses œuvres-là se manifester qu'il allait pécher. Tu vois, non? Il dit, le péché est tapis devant toi, mais toi, domine sur lui. Les sentiments et les sensations étaient en lui. Il devait dominer ses sentiments-là. Sinon, ses sentiments l'auraient amené à pécher. C'est très fort probable que vous ressentiez encore en vous les sentiments d'irritation, les sentiments de l'abattement, que ces choses-là soient manifestes. Mais il faut arriver à les dominer. La première fois, ça peut ne pas être facile. Vous pouvez trébucher, vous allez vous relever, vous dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai encore échoué. Papa, apprends-moi. 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 Et puis priez. Quelquefois, vous vous dites, mais comment, après tant d'années chrétiennes, je peux me mettre en colère pareillement? Amen. Ça vous arrive, mais comment je peux arriver? Ne sois pas abattu. Dis, Seigneur, mais c'est que tu as la victoire, tu vas m'apprendre avec. Tu vas m'apprendre à aller de l'avant. Tu vas m'apprendre à triompher. Et puis vous priez. Vous avez confiance en Dieu. Et vous allez voir au fur et à mesure, sans que vous vous rendez compte. Faites une semaine, vous ne vous fâchez avec personne. Faites deux semaines. En fait, à un moment donné, vous ne vous rendez même pas compte. Et puis un jour, subitement, dans votre cabinet, dans votre bureau, vous commencez à vous dire, mais tu as changé. Hein? Il dit, mais ça là, avant, je t'ai fait ça là, mais tu m'avais mis à ma place il y a longtemps. Le type fait comme ça, il voit que tu souris avec lui. Il voit que tu ris avec lui. Vous comprenez? Et en ce moment-là, vous n'êtes plus un ennemi des œuvres de Dieu. Vous commencez à répandre le bon parfum du Seigneur autour de vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Donc il faut arriver à dominer toutes les œuvres de la chair. Il dit, les œuvres de la chair, c'est l'inimitié, les querelles, les envies, les ivrogneries, les excès de table. Amen. Voilà, on essaie de manger trop. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Ok. Les animosités, la méchanceté, la sorcellerie, la rébellion, toutes ces choses-là, toutes les œuvres qui sont citées dans Galates chapitre 5, vous devez apprendre à votre chair à dominer. Vous devez apprendre à les dominer. Un petit secret rapidement pour vous aider à vaincre la chair. Premièrement, comme je l'ai expliqué, vous allez sentir votre chair manifester la volonté. Ce n'est pas parce que votre chair a des désirs que vous avez déjà péché. C'est quand vous allez suivre ce que la chair pense que vous allez pécher. Satan vous culpabilise très souvent quand votre chair a déjà pensé mal. Vous me suivez, non? Mais ne vous laissez pas culpabiliser parce que vous n'avez pas encore péché. Dites simplement à Dieu, ôte de moi le péché. Satan culpabilise les gens, c'est-à-dire, tu sens que tu es vraiment en colère, tu t'apprêtes à agir. Mais si tu arrives à fermer ta bouche, tu n'as pas péché. Ce n'est pas parce que tu as ressenti la colère que tu es déjà dans le péché. Le sentiment, c'est sans dire le péché est tapis devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Donc si tu domines, tu n'as pas péché. Mais si tu te laisses et que tu commences à parler, c'est là que le péché sort. On dit, Caïn s'est mis à parler. Quand il s'est mis à parler, le péché était déjà. Oui. Tu dois arriver à te maîtriser et puis à gérer ces choses-là. Donc, comment arriver à. Pour que ce soit plus facile, parce que en vous, il y a la volonté de l'esprit, il y a la volonté de la chair. Mais tout ça, c'est en vous. Hein. Pour que ce soit plus facile, généralement, en fait, bon, il faut marcher par l'esprit. Mais pour pouvoir marcher par l'esprit, il faut avoir une bonne vie de prière. Tout à l'heure, je parlerai de la prière pour conclure. Aujourd'hui, il faut avoir une bonne vie de prière. Il faut bien prier. Amen. Il faut bien prier. Et il faut lire beaucoup la parole de Dieu. L'esprit de Dieu qui est en vous est comme une personne. Il mange, il boit, il se repose. Si votre esprit, le Saint-Esprit en vous, là, s'il n'est pas bien nourri, il est fragile. Quand il devient faible, il n'est plus capable de vous donner la domination sur les désirs de votre chair. Vous me suivez? Amen. Naturellement, nous tous ici, on peut soulever des chaises. Donc, si je vois un frère, je dis, ma soeur, par là, soulève la chaise pour moi, tu vois. Mais s'il y a un enfant de 2 ans, 3 ans, je parle du moyen de soulever ça parce que sa corpulence même démontre qu'il n'est pas capable de le faire. Quand vous êtes né de nouveau, normalement, votre esprit est capable de vaincre certaines formes de péché. Mais, de même aussi, un homme d'une vingtaine d'années qui est capable de soulever une chaise comme rien, s'il ne mange pas, s'il est malade, s'il est gravement malade, qu'il est amaigri, on ne pourra même pas lui demander de soulever la chaise. C'est pareil. Si votre esprit n'est pas bien nourri, il ne pourra pas faire ce qu'il est capable de faire naturellement. Vous ne pourrez pas dominer les idées de la chair si votre esprit n'est pas bien nourri. Amen. Alléluia. Donc, votre esprit mange. Ne faites pas jeûner l'esprit. C'est la chair qu'il faut faire jeûner. Il faut l'affaiblir pour que l'esprit soit plus fort. C'est pourquoi quelquefois on jeûne. Parce que quand on jeûne, ça affaiblit la chair et on permet de rester en communion avec l'esprit de Dieu pour que l'esprit soit plus fort. C'est pourquoi quand vous sortez d'un bon moment de jeûne, mieux de temps, de bon moment de jeûne, vous avez plus la capacité d'écouter la voix de l'esprit que d'écouter les désirs de la chair. Amen. Mais il faut que l'esprit soit fort. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la nourriture de Dieu qui vient bien et équilibrée. La parole de Dieu est un repas. Vous comprenez, non? Mais vous pouvez lire la parole de Dieu et puis manger mal. Il y a des personnes qui sont à l'église, mais qui ont le kwashoko. Ou qui ont le mara. C'est-à-dire qu'ils ont une malnutrition spirituelle. Ils mangent n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils lisent leur Bible et ils retiennent n'importe comment. Ça vous donne du mara, ça vous donne un kwashoko. Mais beri-beri, des trucs comme ça. Là. Ok? La nourriture, votre nourriture spirituelle doit être posée, bien équilibrée. Amen. Si vous écoutez constamment, parce que l'esprit mange la parole, si vous écoutez constamment les bruits comme ça, là, ça empoisonne votre esprit. Il vous sera très difficile de marcher par l'esprit, de ne pas se laisser de la chair. C'est pourquoi si vous avez des voitures, si vous êtes trouvé à la maison, saturez-vous de paroles. Achetez les coffrets, les CD là. Même achetez. Prenez ça, mettez dans votre maison. Faites en sorte que quand vous êtes là, parole, parole. Dans votre voiture, parole. Ça dit saturez votre esprit de paroles. Alléluia. Consciemment ou inconsciemment, même quand vous dormez, la louange. Mais si vous êtes là chez vous et que vous n'écoutez les paroles qui rentrent dans votre esprit, c'est seulement les musiques du monde. C'est seulement la télé. C'est seulement les trucs. Vous souillez votre esprit. Et vous n'avez plus trop de force pour marcher selon les désirs de l'esprit. Vous vous sentez faible. Et quand les désirs de la chair viennent, vous n'avez pas la force pour dominer sur eux. Ils vous entraînent. Amen. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Alléluia. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Et la volonté de Dieu, il dit, cette parole-là, médite-la jour et nuit. La parole de Dieu, il faut la manger. Il faut la mâcher, il faut l'avaler. Amen. Il faut la confesser. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. L'eau de l'esprit, c'est la prière. Vous pouvez faire ça un peu sucré, de temps en temps, des petits jus. C'est bon. Les jus, là, sont les types de prières, quoi. Intercession, combat spirituel. Donc, vous équilibrez un peu l'eau, là. Vous voyez l'esprit comme vraiment quelqu'un qui mange. Il doit manger très bien. La nourriture doit être équilibrée dans le sens que vos messages, les messages que vous devez écouter, doivent aborder beaucoup de sujets dans la parole de Dieu. Si vous écoutez un seul type de message, ça va créer un déséquilibre spirituel. Par exemple, un chrétien qui ne mange que une bonne nourriture, une bonne vitamine, qui est sanctification et sanctification seulement, c'est bien. Hein? Mais s'il ne fait que manger ça, dès que lui ouvre la Bible, tous les prédicateurs qui l'écoutent, c'est ceux qui parlent de la sanctification. Quand on parle d'adoration, il dit, mon frère, tout ça là, ce qui est plus important pour Dieu, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc à la fin, il va devenir un autre chrétien déséquilibré. Ça, ça donne un genre de kwashiorkor. Pourtant, la Bible est un tout. Un moment, il devient bizarre. Rigide, extrême. Il condamne les gens et la colère va le dominer. Donc quand il voit quelqu'un qui est dans le péché, oh, tu vas mourir dans le nom de Jésus. Et ce sont les genres de personnes, à force de manger en excès une bonne vitamine, ils deviennent des condamnateurs, des juges. Et ils sont établis comme des prophètes, des censeurs. Ouais, non. Parce que, en fait, la nourriture sanctification, ils devaient l'équilibrer avec la nourriture aussi amour. Tu vois? Mais comme ils ne mangent pas la vitamine amour, ils ne mangent pas la vitamine amour. Parce qu'en fait, sanctification, là, c'est une vitamine. L'amour, c'est une vitamine. Voilà. Ouais, non. Si vous arrêtez de manger la vitamine sanctification, vous allez sentir que votre vie de sanctification baisse. Jusqu'à ce qu'un jour vous partez dans une prédication, vous écoutez un autre prédicateur. Regardez, on connaît tous les messages sur la sanctification. Hein? Vous savez, par exemple, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre les péchés, tout ça. Mais dès l'instant où tu écoutes un prédicateur qui reparle de ces choses avec beaucoup de puissance, ça te rend encore plus droit. Vous comprenez? Pourtant, ce qu'il dit n'est pas nouveau. Mais il te rappelle quelque chose que tu savais. C'est juste que ton corps commençait à être en manque de vitamine sanctification. Donc quand ton corps commence à être en manque de vitamines, alléluia, quand ton esprit commence à être en manque de vitamines sanctification, tu deviens léger. Tu ris avec ce que tu n'es pas ri. Tu vois, non? Les musiques que tu ne voulais plus écouter, là, tu commences encore à écouter. Ça ne te dit plus rien. C'est que ces derniers temps-là, ta nourriture n'a pas été équilibrée. Donc quand tu commences à te rendre compte de cette légèreté-là, tu vas là où tu gardes tous tes messages, tu fouilles dedans. Un puissant message qui t'avait réveillé sur la sanctification. Tu remets ça dans ton CD, tu l'écoutes. La vitamine revient. Tu es revigoré, tu t'en vas. Quand ta vie de prière baisse, ça veut dire la vitamine prière manque dans ta nourriture. Donc tu écoutes un message. Tu vois, si tu te souviens, il y a des messages quand vous écoutez là. Quand le prédicateur vous parle de la prière. Mais dès que tu as fini même de... Tu primes, tu peux prier 5 heures d'affilée. Ça là, tu es saturé de la vitamine comme ça. Mais un mois plus tard, ça diminue qu'on n'en a pas. Pour prier même une heure, c'est difficile. Si tu écoutes la vitamine, tu écoutes un message sur la vitamine jeûner. Quelqu'un te parle du jeûne, il te parle du jeûne, il te parle du jeûne. Toi, là, tu frappes tant de jours. Mais quand la vitamine jeûne finit en toi, même pour jeûner jusqu'à midi, mais ça devient compliqué. Donc, comme tu as un ensemble de nourriture qui sont dans ton, n'est-ce pas, dans ta bibliothèque, tu prends l'essentiel. C'est pourquoi il faut avoir. Vous devez avoir dans votre bibliothèque une série d'enseignements très bien équilibrés. Quand vous sentez qu'il y a une attitude, quelque chose commence à baisser, vous prenez, vous mangez, vous allez voir que votre vie chrétienne est équilibrée, posée, vous êtes bien nourri. Votre esprit est beau. On dit, belle femme, joli garçon, bien équilibré. Équilibré dans la vie de prière, vie de jeûne, vie de sanctification. Ça, c'est une nourriture équilibrée. Alléluia. Alléluia. Si tu as compris, tu vas acclamer le Seigneur. Amen. Et vous avez remarqué que chaque pasteur a une spécialité. Voilà. Il y a des hommes de Dieu qui communiquent la prière plus que. Il peut parler de la sanctification. Hein. Mais s'il parle, tu me dis c'est vrai. Il y a des pasteurs quand tu les écoutes. Maintenant, ils parlent de la prière. Tu dis, on a envie de prier. Il y en a, bon, tout le monde parle de la, tout le monde dit qu'il faut prier. Mais il y a des gens qui. Quand ils te parlent de la prière, ta vie de prière monte comme ça. Là, vous savez que ce sont des spécialistes. C'est pourquoi pour qu'une église soit équilibrée, il faut faire intervenir beaucoup d'orateurs. Amen. Il faut faire intervenir d'autres orateurs. Ça permet aux chrétiens qui sont dans l'église, dans la communauté, d'être équilibrés. Si c'est la même personne, vous écoutez, ben, quelle que soit l'onction qui est sur un homme de Dieu, il est limité. Tu ne peux pas apporter toutes les vitamines toi seul. Alléluia. Donc tu fais venir quelqu'un d'autre, mais il faut trouver aussi de bons cuisiniers. Parce qu'il y en a aussi. Quand ils viennent vous apporter la nourriture, là, il y a plein de sable là-dedans. Ils ne savent pas préparer. C'est-à-dire, ils sont spécialisés dans quelque chose, mais ils ne savent pas préparer. Ils t'envoient la prière, mais ils vont t'apprendre des formules de prière qui ne sont même pas à la sorcellerie. Donc, autant en train de prier, mais autant on te donne des heures de prière, on dit tu te lèves à 2h30 du matin. Et tu pries d'une manière, tu tournes trois fois sur toi. Donc, tu vois, en même temps, interdit de prier, mais il y a du sable dans ce. Donc, tu vas manger, tu vas avoir mal au ventre. Oui, la nourriture n'est pas. Non, il faut faire attention. Non seulement il faut vérifier que vous avez affaire à de bons cuisiniers. Alléluia. Mais si vous n'avez pas affaire à de bons cuisiniers, c'est qui va te dire là, il y a un poisson là-dedans. Ok, gloire à Dieu. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Si votre esprit mange bien, vous allez avoir plus de force pour dominer sur les désirs de la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le premier ennemi pour lequel vous devez vaincre, que vous devez vaincre, c'est la chair, les faiblesses de la chair qui peut vous amener à vous opposer à Christ, comme ces gens l'ont fait en Jean chapitre 8, verset 30, comme ces personnes l'ont fait dans Nombre chapitre 13, qui étaient aussi des personnes qui partaient vers la terre promise, mais qui ont écouté le bruit du dehors, qui ont écouté la peur, qui ont écouté toutes ces choses-là, parce que les sentiments de la peur et autres sont aussi des ennemis, la honte. Tous ces sentiments-là font partie des œufs de la chair. Ils sont des ennemis sur le chemin de votre destinée. Ils vous empêchent d'entrer pleinement dans vos promesses. Alléluia. Il y a encore d'autres formes d'ennemis. Que nous verrons dans la suite. Mais je veux dire juste ici pour terminer un passage que j'ai lu le vendredi dans la veillée. Job chapitre 38. Verset 12. J'avais lu le vendredi dernier à la veillée. Je lis encore. Il dit: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Amen. Ce merveilleux passage qui est là explique de manière générale la façon dont vous devez aborder chaque journée pour pouvoir triompher des ennemis, de vos adversaires et de vos ennemis dans une journée. Amen. Aujourd'hui, je n'ai fait mention seulement que des ennemis que vous pouvez être pour vous-même par votre propre chair. Je n'ai pas beaucoup insisté sur les ennemis que vous pouvez être pour vous-même par vos émotions. Mais vous trouvez les émotions dans l'attitude d'être abattu, d'être découragé ou dans l'attitude que l'apôtre Pierre a manifestée vis-à-vis de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Mais je dis, tant que vous marchez par l'Esprit de Dieu, vous êtes capable de dominer toutes ces choses. Même si vous trébuchez, relevez-vous, apprenez à faire mieux et vous irez ainsi de l'avant. Alléluia. La Bible dit que le juste il tombe cette fois, mais il se relève. Amen. La force d'un homme de Dieu, c'est pas, je n'encourage pas les gens à tomber, il ne faut pas du tout tomber. Mais si vous avez faibli, si quelque chose a manqué, relevez-vous toujours et combattez le bon combat. Ce passage-là dit, dans Jean chapitre, il nous parle de l'importance de la prière avant le lever du jour. Amen. C'est vrai, je ne suis pas style prière à 2h30 du matin. Il faut te lever, il y a 4 prières que tu dois faire la nuit. Non, je crois que ça c'est. Je n'y crois pas vraiment. Je ne veux pas porter un jugement, mais je n'y crois pas vraiment en tant que tel. Mais il est manifeste que dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu préféraient traiter la nuit avec Dieu. Amen. La Bible ne cite pas des heures exactes, mais avant le lever du jour, les hommes traitaient avec Dieu. Et vous allez voir que c'est très fréquent. Par exemple, dans le livre de Exode, lorsque Moïse, je n'ai pas noté la référence, Moïse devait aller triompher de Pharaon. Très souvent, Dieu lui dit, va très tôt le matin, avant que Pharaon ne fasse quelque chose, toi-même, il faut être là-bas le matin. Comme s'il devait devancer son adversaire. Et puis, poser les choses avant que la journée ne commence. Ce que je vais dire est tout aussi valable pour la victoire sur l'ennemi qu'est la chair. Alléluia. Mais aussi pour toute forme d'ennemi. Alléluia. En fait, pour pouvoir les gérer, pour pouvoir les maîtriser et pouvoir permettre à ce qu'ils partent. Ce n'est qu'un aspect. Il y a encore d'autres aspects que nous allons étudier en ce qui concerne la victoire sur les ennemis. Amen. C'est très important. L'ange vient visiter Jacob. Quand Jacob le rencontre, l'ange avait un seul blocage. Il dit, faut pas que l'aurore me trouve. Jacob dit, si tu ne me bénis pas, je te laisse partir. Bon, l'ange aurait pu rester. C'est pas qu'il était fatigué, mais c'est le jour que l'ange ne voulait pas voir. Alléluia. Comme si dans le jour, on ne peut plus agir. Comme si quand le jour se lève, on n'est plus capable de contrôler la situation. Amen. C'est un peu comme si ces différents passages là, quand Dieu dit à Moïse de devancer Pharaon le matin, comme si le matin arrive, c'est comme si les dés sont déjà jetés. Et tu subis la journée. Alléluia. Et voilà ce que le Seigneur dit dans ce passage. Il dit, Job 38, il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Il dit, est-ce que tu as montré à l'aurore sa place? Je dis, mais est-ce que c'est à l'homme de dire à l'aurore, à la journée, ce que l'aurore doit être? Amen. Au début, quand je vois le passage, je comprenais plutôt que Dieu est en train de dire à Job, ces choses-là ne dépendent pas de toi. Est-ce que quand tu t'es levé le matin, effectivement, c'est ce qui ressort? Est-ce que c'est toi qui as créé l'aurore? Est-ce que c'est toi qui demandes au soleil de se lever? Effectivement, il parle dans ce contexte. Mais il y a un mystère à l'intérieur parce qu'il va plus loin. Il dit, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as parlé à l'aurore pour que l'aurore, pour que ta journée puisse, l'aurore puisse secouer et ôter de ton chemin les ennemis de ta journée? Il dit, est-ce que tu t'es levé, tu as dit à l'aurore pour qu'elle arrive à transformer la terre comme de l'argile? Ça veut dire que toi-même, vous savez, tu commences à créer les choses. Alléluia. Il dit, as-tu montré ta place à l'aurore? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Est-ce que vous avez déjà commandé au matin? Amen. C'est la prière que j'avais voulu que nous puissions apprendre dans ce jour. J'aurais pu faire ça à la fin de l'enseignement, pour parler dans tous les ensembles du combat. C'est vrai, on se lève le matin, on prie. Mais il fallait voir combien de fois c'était important pour Jésus de prier la nuit. Jésus a dit ceci à ses disciples. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. On a souvent simplement cru que ce passage est en train de dire, soyez vigilants et priez. Non, ça veut dire veiller. La Bible définissait la nuit, dans la parole de Dieu, on définit la nuit en plusieurs veilles. Première veille, deuxième veille, troisième veille. Il a dit à ses disciples, vous n'avez pas veillé une heure avec moi. Donc veiller là, pour Dieu, ce n'est pas toute la nuit. Ce qu'on appelle veiller, c'est au moins une heure. Donc il y a la première veille, la deuxième veille. Il y avait plusieurs veilles dans la nuit. On parle de veille la nuit. Donc quand il dit aux disciples, veillez et priez, ça veut dire dans la nuit, il faut prier. Si vous ne priez pas dans la nuit, si vous ne prenez pas au moins une veille, il dit, si vous ne priez pas au moins, vous n'avez pas pu prier une heure avec moi. Si vous ne priez pas au moins une heure dans la nuit, vous risquez de tomber dans les tentations de la journée. Veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Et les disciples, ils ont dormi la nuit parce qu'ils étaient fatigués. Le lendemain, ils sont chutés. Leurs ennemis ont triomphé d'eux. Pierre avait décidé que lui, pour rien au monde, il allait régner Jésus. Mais la nuit où il devait veiller pour ordonner au matin, pour que le matin secoue la terre et puisse en dissiper les ennemis, Pierre et les autres apôtres ne l'ont pas fait. Le lendemain, les ennemis ont triomphé d'eux. Alléluia. Et l'ennemi, ça peut être ta chair. L'ennemi, ça peut être quelqu'un qui va venir s'opposer en toi. Quand tu fais cette prière, Dieu secoue de ton chemin
les ennemis. Ce n'est pas dit qu'ils ne vont pas arriver, mais ils vont s'enfuir. Tu vas avoir le discernement. Tu te lèves le matin, tu commandes au matin. Tu commandes à l'aurore. Comme Jésus a fait. Quand ils viendront, tu vas discerner que le conseil que te donne n'est pas de Dieu. Tu vas avoir en toi le sentiment que tu ne dois pas faire ce qu'il te demande de faire. Là. Même si ce qu'il te dit te paraît pur. Ce que Pierre est venu dire à Jésus, c'était bien. Pourquoi tu dis ça, que tu vas aller mourir à la croix? On ne dit pas des choses comme ça. Mais c'était le diable. Quand vous commandez à l'aurore, vous avez ce type de discernement-là qui s'élève en vous dans la journée. Oui. Veillez et priez. Vous arrivez, vous rencontrez des gens qui viennent vous parler. Comme tu as secoué là. Comme tu as secoué là. Il tient, l'ennemi ne tient pas. Il vient et lui-même après, il dit bon. Pendant même que tu t'apprêtais à faire la gaffe, hein, il me dit mais faut laisser. Hein. Tu dis mais pourquoi te laisser? Tu dis moi-même, je suis chaud même. Il dit non, faut laisser. Et puis plus tard, tu apprends que, en fait, on voulait te surguer. Comme tu as commandé au matin, Dieu a secoué l'aurore. Et tes ennemis partent comme ça. Il dit alléluia. Il dit afin que tout bras qui s'élève contre toi soit brisé. Le bras du méchant qui s'élèvera contre toi sera brisé. Commandez à l'aurore.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.